Soyez bénis chacun, chacune dans la douceur, tout ce qui est pur, tout ce qui veut honorer et servir Dieu au-dessus de tout. Quelle beauté ce chant du maître Peter de Nof, quelle splendeur! Ça rappelle les montagnes du Rila. Il faudra vraiment qu'un jour on fasse ce voyage tous ensemble, ceux qui peuvent en tout cas, celles et ceux qui peuvent, qu'on aille dans ces montagnes saintes, sacrées, vivantes, emplies de Dieu, de la présence de Dieu, du monde divin. C'est vraiment magique. Or, il y a beaucoup de monde, parce que c'est pas comme à l'époque du maître, où ils étaient juste quelque part, voilà, leur petit groupe. Maintenant, c'est devenu, il y a des gens qui viennent du monde entier, hein, voilà, par Peter de Nof. Il y a des milliers d'élèves de Peter de Nof qui vont dans les montagnes, et pas que des élèves du Peter de Nof. Il y a aussi malheureusement, les religieux bulgares. Qui en ont fait comme un lieu de pèlerinage, parce que voilà, ils sont c'est des combats d'égrégores quelque part en Bulgarie, voilà, ils veulent pas laisser ça aux élèves du maître de Nof, donc ils ont tracé une voie de pèlerinage à eux dans les montagnes. Mais bon, donc il y a beaucoup de monde vraiment, hein. Mais il y a quand même des endroits qui sont quand même très préservés, hein, qui restent. Oui, magiques, qui sont emplis de vie, de pureté, de majesté, de beauté, des endroits préservés, des endroits où justement il est un peu à l'écart des sentiers battus, où tout le monde ne va pas. Et le monde divin règne dans ces montagnes. Hein, c'est le maître de Nof, il dit dans. A dit, voilà, c'est si vous aviez les. Voilà, qu'on n'a pas, hein, faut le reconnaître. Lui avait ses yeux invisibles qui voyaient, voilà, il disait, c'est ici, c'est un monde de merveilles, de poésie, de splendeur. C'est ce qui est décrit, par exemple, dans les contes des Mille et Une Nuits, voilà, le maître de Nof dit, voilà, vous l'avez dans les montagnes des Rilas. C'est une splendeur de beauté, de féerie, de majesté, de pureté, des sources qui coulent dans l'invisible. Hein. Voilà, des fleurs qui jaillissent dans l'invisible. Et dans le visible, hein, c'était quand on y est allé, je me souviens avec le frère Evaout, il y avait des fleurs violettes de partout. C'était un tapis de fleurs violettes de pureté alors qu'il y avait encore de la neige. Voilà, c'était vraiment d'une grande pureté, vraiment. Il faudra qu'on fasse ce voyage un jour. Je voudrais essayer de compléter ce que j'ai essayé d'aborder hier. Ce que je voulais vous dire, c'est que le sceau de la santé, c'est pas confiné au corps physique, c'est vraiment tous les corps, tous les sens, quelque part, tous les degrés, tous les étages, tous les mondes. Et quelque part, c'est une œuvre gigantesque, parce que c'est pas seulement nous, c'est aussi l'environnement, c'est aussi la terre tout entière, la vie sur la terre. C'est aussi, par exemple, l'éducation. L'éducation, à l'heure actuelle, voilà, elle est malade. Elle rend, quelque part, oui, elle enferme les jeunes dans une vision sans âme, voilà. Ils le disent eux-mêmes, hein. C'est l'éducation, à l'heure actuelle, c'est pour programmer, c'est pour préparer les jeunes à vivre dans ce monde moderne. Donc voilà, ils font du mieux qu'ils peuvent, il n'y a pas de problème, hein, pour les armer dans ce monde. Mais ce monde est un monde qui vit sans âme, qui ne respire pas avec les mondes supérieurs. Et donc, l'éducation ne leur permet pas, ne parle pas de l'âme, d'ouvrir ses sens, de marcher sur le chemin de la lumière. Voilà, c'est une éducation qui enferme. qui ne respire pas avec l'âme, avec l'éternité, avec le monde divin. Et voilà, quelle devrait être l'éducation pour que la plénitude, la félicité, le bonheur, la guérison, la libération vivent sur la terre? Eh bien, ça devrait être une éducation complètement nouvelle. Hein. Voilà, jeune, à tous les degrés, tous les âges. Une éducation complètement différente. Il ne faudrait pas qu'il y ait de programme, par exemple, imposé. Les enfants, ils sont tous différents. Ils sont pas forcément dans le... ouais, ils n'éveillent pas forcément au même moment les mêmes facultés, les mêmes compréhensions. Faudrait que ce soit beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, sans cette pression énorme qui est mise sur eux, qui quelque part les étouffe et les rend malades. Hein. Il faudrait que ce soit beaucoup plus serein, détendu, en contact avec la nature, avec la mer, les arbres fruitiers, les poules, les animaux, les chats, les chiens. Voilà, il faudrait que ce soit avec la maman, il faudrait que ce soit qu'ils puissent voilà, s'allonger sur l'herbe, être avec la mer, être avec le vent qui souffle dans les arbres, être avec les sources qui coulent, être avec les arbres fruitiers, les fleurs. Voilà, il faudrait que ça, que l'éducation, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le maître Peter Denhoff, hein, et l'éducation devrait être basée sur ça, c'est ça, c'est d'abord avec la maman, et que ce soit la maman qui leur parle à travers les couleurs des fleurs, les arbres au printemps, après c'est l'automne, il y a des fruits, le blé qui mûrit, les céréales, les sources qui coulent, les oiseaux qui chantent, qui font la fête au printemps. Voilà, c'est tout ça qui devrait les emplir et ce serait réellement un nouveau monde. Hein. On ferait ça, on commencerait à faire ça, et ben les enfants ne seraient plus les mêmes. Ils seraient différents. Ils seraient dans... Voilà. Ils commenceraient à s'approcher de leur âme. À respecter les autres. Les animaux ont une âme. Les végétaux, les plantes ont une âme. C'est tout ça le sceau de la santé, c'est de tout rééquilibrer dans le monde entier. Non seulement l'éducation, mais l'économie, hein, pareil. L'économie qui enferme les êtres. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait aux animaux? On les enferme dans des lieux d'obscurité. Certains ne voient même pas la lumière du jour, ne voient même pas le soleil. Le ciel, les étoiles, ils sont coupés, enfermés. Voilà, ils sont dans des boîtes. On leur donne à manger pour qu'ils engraissent le plus vite possible. C'est un esclavage, c'est une magie ténébreuse. Hein, il faut l'avoir. Hein. C'est une magie ténébreuse qui enferme les êtres, qui les coupe de leur âme, de leur origine divine, de ce qu'ils sont dans l'alphabet divin, de la lettre qu'ils sont dans l'alphabet divin. Tous les animaux sont une lettre de l'alphabet divin. Ils doivent pouvoir être avec leur âme, le soleil, le ciel, le vent qui souffle, la pluie qui tombe, la terre qui est de la vraie terre, pas une terre artificielle, fausse et morte, mais une vraie terre qui les porte, qui leur permet de communier par leurs pattes avec la maman. C'est ce qu'on leur fait est ignoble. Et il ne faut pas croire, ce malheur qu'on leur inflige, eh bien, voilà, c'est tout l'enseignement de Jésus. Ce que tu fais à l'autre, eh bien, voilà, c'est un esprit de malheur qu'on appelle sur eux, qu'on invoque à travers, que l'humanité invoque à travers sa sphère de vie. Et donc ces esprits ténébreux qui rendent les animaux malades, qui leur amènent tellement de souffrance, eh bien, ça vient après sur les humains, c'est la loi. Ne fais de mal à personne, parce que si tu fais du mal à quelqu'un, eh ben ce mal que tu invoques, cet esprit mauvais que tu invoques quelque part pour faire du mal à quelqu'un, que ce soit ton frère, ta sœur, un animal, un petit, une plante, une fleur, eh ben ce mal, cet esprit mauvais que tu invoques pour enfermer les êtres, les couper de leur âme, de leur respiration avec leur origine divine, leur étincelle divine, ce qui en eux est divin et qui appartient au Père. Ce mal que tu leur fais, inconsciemment peut-être, mais même si c'est inconscient, eh bien ça revient sur toi, parce que tu l'as invoqué. Voilà. L'homme sur la terre, il a une grande responsabilité, il est l'intermédiaire entre les mondes du Père, les mondes supérieurs, et les mondes de la maman. Voilà. C'est Il a une grande responsabilité. Il n'a pas le droit d'enfermer les êtres dans le malheur, la désolation. Ça veut dire, voilà, c'est toute l'éducation qu'il faut rééquilibrer. C'est toute l'économie qu'il faut rééquilibrer. C'est toute la culture tout entière, de l'humanité tout entière à notre époque qu'il faut rééquilibrer. C'est tout ça le sceau de la santé. C'est tout ça pour que tous les êtres sur la Terre, ils aient de nouveau un chemin digne, un chemin bon, où ils peuvent être avec leur âme, goûter la paix, la sérénité, d'être avec la maman, dans les bras de la maman, tout simplement, hein. Et voilà, et regarder les étoiles, être avec leur âme, et laisser leur âme leur parler, les emplir, les éclairer, leur montrer le chemin, ce qu'ils doivent faire pour guérir telle situation. Pas un monde où ils sont enfermés, où ils sont dans les ténèbres. L'économie actuelle, c'est une magie ténébreuse. L'éducation actuelle, c'est une magie ténébreuse qui coupe tous les êtres, les enfants, les animaux, les végétaux, de leur âme, de leur origine divine. C'est pour ça, voilà, il y a un travail immense, hein. Et tout ça, c'est le sceau de la santé. C'est, voilà, l'économie, l'éducation, c'est la façon dont on regarde, ouais, notre vision. C'est pour ça qu'Olivier, il a amené tellement de messages, quelque part, voilà, le message de la biche, hein, par exemple, le message des poules, hein, il y a un message des poules aussi, le message de l'éléphant, voilà. De la tortue, voilà. C'est pour montrer que ces êtres, ils ont une âme. C'est pas juste des corps, c'est pas des abrutis, les animaux sont pas abrutis, ils sont emplis d'intelligence. Ils portent une étincelle de l'intelligence divine, ils ont un message à transmettre. Ils incarnent une intelligence, une lumière, comme les Égyptiens, dans les anciens temps, avant l'Égypte déchue, qui a commencé à peu près à Akhénaton, après Akhénaton, avant, dans cette ancienne Égypte, voilà, les animaux étaient glorifiés. Ils étaient pas enfermés. Horus, c'était le faucon. Eh ben, il était dans son origine divine. Il était, voilà, il pouvait respirer. Les Égyptiens connaissaient ses secrets. Et ils n'enfermaient pas les êtres. Voilà, il les cloisonnait pas, il pouvait respirer. C'était une autre éducation, une autre économie aussi, donc un autre monde, c'était une splendeur sur la Terre. Voilà, c'est tout ça le sceau de la santé, c'est immense, ça concerne tout, quelque part. Toutes nos relations, notre façon de vivre, d'éduquer, voilà, c'est tous les mondes. Et ce qui permet d'amener l'équilibre, justement, bah c'est c'est notre tradition, c'est le bâton. La voie, le chemin des fils d'Énoch. C'est ça l'axe central qui permet d'équilibrer, de tout équilibrer dans la magie divine. Voilà. La magie, c'est tout ça. On parle de magie, hein. Je vais essayer de faire un petit schéma pour éclairer ça. Excuse-moi, Jean-Michel. Voilà, donc au-dessus du sceau de la santé, Dieu seul est. Là, on peut mettre tout. Voilà. La lumière, Dieu seul est la lumière. Dieu seul est la perfection. Dieu seul est la grandeur. Dieu seul est l'intelligence. Dieu seul est la sagesse. Dieu seul est l'amour. Dieu seul est grand. Dieu seul est toutes les vertus, toutes les qualités, toutes les forces, toutes les lumières que voilà, qui sont. Dieu seul est. Ça appartient à Dieu, ça n'appartient à aucun être. Ça appartient à Dieu et à Dieu seul. Dieu seul est grand, aucun homme n'est grand. Il faut que ça soit une base, une terre, un pain de vie, une nourriture, une respiration, un soleil qui nous éclaire à chaque instant pour ne pas perdre la tête. Dieu seul est. L'homme n'est pas. Dieu seul est. Dieu seul est grand, Dieu seul est la lumière, toutes les lumières. Donc voilà, c'est l'enseignement d'Olivier, hein, mais c'est un enseignement fondamental. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le méditer, de toujours d'y revenir, de l'approfondir, de le vivifier, parce que c'est une splendeur hein, qu'Olivier a amené. Hein, il faut vraiment s'en faire un pain de vie. Voilà, il faut re-regarder ses conférences. D'ailleurs, il en parle 10 000 fois mieux que moi. Voilà, mais voilà, je dois faire une conférence, donc je la fais comme je peux, avec ce que je suis, excusez-moi. Voilà, donc il y a une voix centrale, la voix des fils d'Enoch. La voix, excusez-moi si je cache, je ne sais pas où me mettre. La voix des fils de Caïn, donc les matérialistes. La voix des fils d'Abel, les spiritualistes, et ben voilà, ça décrit toute la vie sur la terre. Donc du côté des fils de Caïn, vous avez par exemple la science, le côté objectif, le côté extérieur, de la lumière extérieure, et du côté des fils d'Abel, vous avez donc la religion, le côté subjectif, le côté intérieur, peut-être que c'est mieux si je me mets là, non? Voilà, et donc le chemin, eh ben, c'est des équilibres ici. Des équilibres. Le chemin, c'est équilibre, c'est-à-dire d'équilibrer l'extérieur et l'intérieur. L'essence extérieure, l'essence intérieure, ça doit être tourné vers l'essence intime. L'essence intime doivent prendre possession des sens intérieurs et les sens intérieurs doivent rayonner vers l'extérieur. Voilà, c'est ça, c'est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour l'équilibre. Dieu seul est l'équilibre. Si on veut l'équilibre sur la terre, dans l'éducation, dans l'économie, à tous les niveaux, dans toutes les relations, dans tous les êtres, à l'intérieur, dans notre santé, voilà. Il n'y a que Dieu. Dieu seul peut donner l'équilibre. Dieu seul est l'équilibre. Le seul chemin, c'est d'unir l'extérieur et l'intérieur dans l'intime, de tourner les sens, voilà, de développer ces sens intimes. Un exemple pour éclairer ça, c'est le maître Peter de Nov. Sa vie tout entière est une splendeur. Le maître Peter de Nov, il est voilà, dans ces montagnes de Bulgarie. C'est le maître Ivanov qui raconte cette expérience. Le maître Ivanov, donc, qui était avec lui dans ces montagnes, avec tous les frères et sœurs de l'école du maître à l'époque. Voilà, le maître Ivanov, il veut faire une expérience, donc il grimpe sur un endroit dans les montagnes, et malheureusement, il a mal calculé son coup, il glisse. Et ça menace de, comme la pente est abrupte, il menace vraiment de se faire très mal. Et le maître de Nov qui était en train, à un autre endroit, qui est en train de parler au même moment avec un petit groupe de frères et sœurs, il leur dit, le frère Michael est en danger, voilà, le maître de Nov, c'est une splendeur, hein, il avait des sens tellement fins, des sens intimes. Il vivait comme dans une omniprésence. Comment il a pu savoir qu'au même moment, le frère Mikhaïl, le maître Ivanov, était en train de tomber d'une pente, de dévaler avec sa canne, il essayait de se raccrocher avec son bâton de marche, qui a fini en 1000 morceaux. Et il a dit instantanément, voilà, il le savait. Il était dans une omniprésence, des sens intimes. Dieu est omniprésent. Comment le maître de Nof a pu savoir ça? C'est qu'il était en telle communion avec le divin que voilà, le divin, omniscient, omniprésent, il sait, voilà, il est dans le savoir instantané. Voilà. Et donc, il a su que le maître, que le frère Mikhaïl à l'époque, était en danger. Et donc, il a dit, il faut prier. Et donc, lui-même s'est mis en concentration immédiate, en prière immédiate, pour aider le frère Mikhaïl dans l'invisible, par la magie, du soutien mutuel, de la pensée, de la protection des mondes supérieurs. Et voilà. Et le frère Mikhaïl, il a pu se rattraper au dernier moment. C'est, voilà. Il n'y a pas d'autre chemin. Dieu seul est l'équilibre. Là, il faut unir la science et la religion, le côté objectif et le côté subjectif, voilà. Le côté du loup et le côté de l'agneau. Ça veut dire quoi, par exemple? Eh bien, on ne rejette ni le loup ni l'agneau, on les équilibre. On est des gardiens pour ce qui est divin. Des fois, il faut dire non, on va dire que c'est le loup, et des fois, il faut dire oui, c'est l'agneau. Mais il ne faut pas être la voix des fils d'Enoch. On pourrait dire ici, par exemple, c'est méchant, et là, c'est gentil. Non, la voix des fils d'Enoch, c'est ni méchant ni gentil, c'est l'équilibre des deux, c'est être juste. Quand il faut dire non avec force pour protéger le divin, garder pur les enceintes de la maison de Dieu, on dit non avec force parce que ça ne doit pas rentrer. Le loup ne doit pas rentrer dans la bergerie. Et quand il faut dire oui, ben, y a pas de problème, on dit oui. Mais il faut être juste dans l'équilibre du oui et du non. Des deux côtés, de la matière et de l'esprit, de l'épais et du subtil. C'est un équilibre. Il n'y a pas forcément de règles, c'est la vie qui dit. C'est... voilà. Là, ce que je voulais illustrer, c'est... Les fils de Caïn, donc les matérialistes, voilà leur vision du monde, ils disent, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de monde invisible, il n'y a que des corps, c'est que physique, les mondes invisibles n'existent pas, voilà, c'est leur vision du monde. Mais en fait, il faut voir que c'est une magie ténébreuse. C'est comme, voilà, les poules, par exemple, elles sont coupées de leur âme, et les enfants pareil, les animaux, les végétaux. Par cette vision, par ces yeux qui sont posés sur les êtres, tous les êtres sur la terre, les êtres sur la terre sont enfermés dans le corps. Voilà, ils sont victimes d'une magie ténébreuse. Les fils de Caïn, même s'ils disent qu'il n'y a pas de magie, que tout ça, voilà, que ça n'existe pas, en fait, la magie ténébreuse, elle est vivante à travers leur vision du monde, tout simplement. Leur façon de considérer les êtres, la vie sur Terre, le sens de la vie. Voilà, ils disent par exemple, ben voilà, tu viens, tu travailles, après tu vas mourir et après il n'y a plus rien. C'est une magie ténébreuse. La magie des fils d'Abel, eux ils reconnaissent qu'il y a un monde subtil, il y a un paradis, voilà. C'est le côté subtil, là c'est le côté épais. Leur magie est détournée. Ici c'est l'usurpateur qui détourne, là c'est l'usurpateur destructeur. Leur magie est illusoire, elle est fausse, elle n'est pas reliée à l'ange de la magie. La magie est un ange, c'est un ange divin, un ange qui a une mission. La magie est divine, elle est pure, elle est sainte, elle est sacrée, c'est un ange de Dieu, un messager de Dieu. On n'a pas le droit, par exemple, pour vous donner un exemple de magie illusoire, de fausse magie, c'est une magie qui ne nourrit que les égrégores, les esprits, les génies. Par exemple, je suis désolé, mais en Inde, la religion hindoue est dans ce cas-là. Hein, voilà. La religion hindoue. J'espère que je n'offense personne ici. Eh ben, voilà, elle ne respire pas avec le monde divin. Elle est enfermée. C'est une religion du monde de l'homme. Et donc, quand ils font des offrandes, des grandes, c'est énorme ce qu'ils font, hein, les hindous en Inde pour leur dieu Shiva, etc. Eh ben, ça ne nourrit que des égrégores du monde de l'homme. Là, leur religion, elle n'est pas avec le monde divin. Elle n'est pas avec le monde divin, elle n'est pas avec le Dieu qui à l'origine était Shiva. C'est devenu quelque chose de mort, de vide, de stérile, qui n'apporte pas la vie, l'intelligence, la sagesse, mais qui amène la bêtise. Hein. D'ailleurs, on voit, ils deviennent fanatiques avec les autres religions. C'est triste, hein. Ils se retournent contre les chrétiens, les musulmans. En Inde, ils ont des problèmes, hein, les chrétiens, les musulmans, par exemple, et les autres, hein, même les sikhs. Voilà. Ça devient dogmatique, ça devient ouais, une religion morte. C'est une fausse magie, une magie détournée, usurpée. C'est ce qu'Olivier a appelé l'usurpateur illusoire, le menteur, voilà, l'usurpateur menteur qui ment. Ce n'est pas pour les vrais dieux. Ce sont des faux dieux de l'homme, uniquement de l'homme, qui ne passent pas la frontière de l'homme et de la mort. Il n'y a rien avec le monde divin, rien dans cette religion. Maintenant, je ne dis pas à l'origine c'était différent, il hein, faut bien comprendre. Hein. Voilà, à l'origine c'était pur, mais voilà, quelques milliers d'années après, c'est devenu mort. Voilà, le chemin, c'est la magie divine. Voilà, c'est fondamental. Hein, alors, dans notre culture, on n'est pas. On n'a pas cette éducation hein, de la magie. En Inde, par exemple, c'est différent. Ils ont, même s'ils sont. Voilà, ils ont ce côté de la magie illusoire. Il y a des temples partout. En Inde, c'est énorme, hein, c'est immense. Par exemple, en 2003, j'y avais été avec Olivier. Eh ben, voilà, il y a une ville qui s'appelle Haridwar, je pense que c'est assez connu, c'est à côté de Rishikesh, pas très loin de Rishikesh, qui est une ville aussi assez connue pour les Occidentaux en tout cas. Et à Haridwar, c'est considéré comme une ville sainte, il y a le Gange qui coule, tout ça, et il y a des temples partout. Et voilà, c'est le côté magique est vraiment très présent en Inde. Hein. Par exemple, quand vous passez à côté en Inde, il y a des sadhus, ce qu'ils appellent comme des mendiants sacrés qui sont, voilà, qui vont nu-pieds, qui n'ont pas de maison, qui errent, qui mendient. Et ben, par exemple, quand vous passez à côté d'un sadhu, que vous éternuez, voilà, eux, leur réflexe, c'est tout de suite, c'est Om. En vrai, hein, vous éternuez à côté d'un sadhu, pour eux, c'est vivant. Le fait d'éternuer, c'est un esprit, c'est une maladie, et donc ils ne veulent pas tomber malade. Et donc, pour se protéger, ils commencent à chanter le Om pour qu'il soit empli, pour que l'esprit malade ne puisse pas entrer en eux. Et ouais, ils ont cette culture-là, mais ils ne sont plus en respiration avec le monde divin. Olivier, par exemple, il faut savoir, Lui qui avait instinctivement, qui a travaillé la magie pendant des incarnations et des incarnations, il avait le savoir, l'intelligence, il savait il y avait des temples, par exemple à Haridwar, il y a des temples qui sont reconnus comme des temples de magie noire. Et bien Olivier ne voulait pas y aller. Voilà. Parce que c'est vivant, il y a vraiment des êtres derrière. Il n'était pas inconscient, il savait que c'était vivant. On ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas plus grand que les mondes invisibles, l'homme n'est pas plus grand. C'est une illusion de croire ça, qu'on peut tout affronter, qu'on peut aller partout, faire n'importe quoi. Non, l'homme n'est pas Dieu seul. Et voilà, Olivier lui-même ne voulait pas aller dans certains temples, par exemple dans cette ville d'Haridwar, parce que c'était lié à la magie noire. Et donc il prend soin du divin en lui et en ceux qui étaient autour de lui. Il ne les expose pas inutilement. Voilà. Il y a une sagesse, une intelligence. La vie est vivante. La vie est magie. Tout est magie. Je crois que c'est le troisième commandement de Raphaël. Sache que tout est magie, c'est le début du troisième commandement. Sache que tout est magie. La magie est omniprésente. Omniprésent. Tout est magie. Tout. Nos regards, nos paroles. La parole, c'est énorme, hein? Olivier, par exemple, quand il faisait certaines conférences qui bousculaient un peu, eh ben, on voyait certains Esséniens. Voilà, il y avait comme quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur d'eux. Voilà, ils avaient du mal à envoyer qui gigotait. Et ben voilà, c'est la parole magique d'Olivier faisait que certains esprits en eux, du monde de l'homme, ben, avaient du mal à supporter. Et soit ils dégageaient, donc ça dégageait les Esséniens, soit voilà, ils étaient comme chamboulés par la parole vivante d'Olivier. Et voilà, ça. Soit ça dégageait, soit il réussissait à rester. Olivier a dégagé plein d'Esséniens comme ça par sa parole. La nation essénienne est magique. Il y a une Essénienne qui me racontait une expérience qu'elle avait faite. C'est elle passait dans une écriture, une cérémonie, où il fallait signer de son nom essénien sur un document, un peu comme la cérémonie des hiérogrammates, la consécration des hiérogrammates. Et voilà, donc elle passe, mais voilà, inconsciemment, sans faire attention, elle signe de sa signature du monde de l'homme, sans faire attention, elle ne s'en rend pas forcément compte, elle s'en rend compte seulement à l'étape suivante, quand à l'étape suivante, donc il y avait une flamme, donc le papier qu'elle venait de signer, donc je pense qu'elle lisait quelque chose peut-être au-dessus de la flamme, et sans s'en rendre compte, la flamme brûle dans un cercle parfait, elle brûle exactement à l'endroit où elle avait signé de sa signature du monde de l'homme. On n'invente pas hein, des expériences comme ça. Nos cérémonies sont vivantes et magiques. Il y a une, voilà, c'est l'esprit le génie de la cérémonie lui disait, voilà, tu t'es trompé, là, c'est pas correct. Donc, faut retourner. Faut retourner, faut recommencer. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Pour revenir à la parole, par exemple, voilà, il faut voir qu'Olivier nous le disait, il a insisté tellement de fois sur ça, c'est que c'est pas tellement la parole qui est importante, les mots que tu dis, c'est ce qui anime la parole, ce qui est derrière la parole, les esprits, les génies, les égrégores qui animent la parole, qui inspirent la parole, qui portent la parole, qui la soutiennent, qui la vivifient ou qui l'amoindrissent. Par exemple, pour prendre un exemple concret, si par exemple une parole de Jésus prononcée par Jésus est la même parole prononcée par exemple par un inquisiteur devant quelqu'un qu'il est en train de torturer pour se justifier de ce qu'il fait, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même parole. Derrière la parole de Jésus, c'est un soleil qui rayonne, qui bénit le divin dans tous les êtres sur la terre. C'est un soleil qui irradie, qui rayonne. Dieu est amour et il renforce le divin dans tous les êtres, dans tous les végétaux, toutes les fleurs, toutes les pierres, tous les minéraux, toutes les montagnes. Voilà, sa parole était divine, emplie de la présence de Dieu quand il disait une telle parole. Dans la bouche d'un inquisiteur qui est en train de torturer quelqu'un, ce sont des démons qui habitent la parole. Mais extérieurement, c'est la même parole. Ce sont les mêmes mots. Mais dans l'âme, c'est l'inverse. C'est le contraire. Voilà. C'est pas tellement la parole qui est importante, c'est l'intention qui est derrière, pourquoi tu l'as dit, à quel monde elle est reliée. Est-ce que c'est un monde divin ou est-ce que c'est un monde d'une religion fausse, usurpée, détournée? Voilà, il faut vraiment prendre conscience de tout ça, c'est fondamental. Si on veut garder le cap, il n'y a pas d'autre chemin que de s'éveiller pour rester dans l'équilibre. Il y a une expérience aussi qui éclaire tellement qu'est-ce que c'est, qui montre que la vie est magie, que la vie tout entière est magie, que tout est magie. C'est cette expérience d'un. Voilà, c'est Olivier qui nous l'avait raconté. Il n'en a pas tellement parlé, je pense, publiquement. Mais voilà, dans des cercles de prêtrise, il a beaucoup insisté sur ça à un moment donné. Il nous parlait d'un élève du maître Ivanov qui s'appelait Gideon Fontalba. C'était pas son vrai nom, c'était voilà, le nom qu'il avait pris pour une école qu'il avait créée. Et cet être, donc c'était un élève du maître Ivanov, et donc c'était les années peut-être 70 ou 80, je ne sais pas exactement à quel moment, en tout cas avant le départ du maître Ivanov en 86. Et donc cet élève, voilà, à l'époque il y avait aussi un être en Inde dont je ne dirais pas le nom, qui était un mage noir. Et donc voilà, cet élève du maître Ivanov a le projet d'aller le voir parce qu'évidemment il ne se présentait pas cet être comme un mage noir. Évidemment, il se présentait comme un être magnifique, sublime, capable de faire des miracles. Voilà, c'était une grande illusion, un grand mensonge. Un spiritualiste qui amenait une illusion énorme, qui détournait les forces de Dieu. Et le maître Ivanov, qui savait que cet être n'était pas authentique, n'était pas un véritable serviteur du monde divin, dit à son élève: non, surtout ne va pas voir ce pseudo-maître, ce faux maître, ce n'est pas un vrai maître, c'est un mage noir. Voilà, l'élève, malheureusement, ne l'écoute pas. Il ne l'écoute pas. Il va en Inde, il se déplace en Inde, il va voir ce faux maître spirituel, ce mage noir. Il se fait repérer par lui, parce qu'en plus, cet être, Gideon Fontalba, il avait comme une lumière, une vraie lumière. C'était un vrai enfant de la lumière, un vrai missionnaire du monde divin, même. Hein. Il aurait même pu, s'il n'avait pas chuté à travers cette erreur, il aurait pu faire de grandes choses pour la lumière. Mais le fait est qu'il fait cette erreur d'aller voir ce mage noir, et là, il se fait repérer, il se fait féconder par lui. Voilà, apparemment, le mage noir lui avait même demandé de tuer le maître Ivanov. Donc évidemment, il ne l'a pas fait. Mais dans l'invisible, dans ses corps subtils, l'autre l'avait fécondé. La magie, une rencontre, n'est jamais anodine. Il y a des semences. Et quand c'est un être conscient qui a des pouvoirs magiques, qui fait ça, un mage noir, là, ça peut vraiment être dangereux, ça peut te plomber, hein, ça peut plomber ta destinée, ça peut te porter pendant des années avant de pouvoir enlever ses semences, ça rigole pas. Une rencontre, la vie est magie, les relations sont magiques, une rencontre peut être fécondante sur des années, même peut-être toute une vie, hein, et même peut-être plusieurs vies. Voilà, donc il se fait féconder dans ses corps subtils par ce mage noir. Il rentre, donc évidemment, il n'a pas cherché à tuer le maître Ivanov, mais le maître Ivanov, voilà, qui voit ça dans les mondes subtils, qu'est-ce qu'il fait? Il le chasse. Il le chasse de son école. Il n'avait pas le choix. L'autre était fécondé par un mage noir, donc il portait des semences ténébreuses. Sournoise, d'une grande sournoiserie en lui, le maître Ivanov, il protège son école, il protège ses élèves, il est responsable de son école, il est responsable de ses élèves. Lui, il prend soin de Dieu en eux, il veut pas. Voilà, c'est un gardien et un protecteur. C'est oui, quand c'est juste, et quand c'est pas juste, c'est non. Et voilà, il l'a chassé de son école, chassé. Il n'avait pas le droit, il ne pouvait plus venir écouter le maître Ivanov, parce que le maître Ivanov ne voulait pas que ça se répande dans son école, parmi ses élèves. Il connaissait les lois. Tout est vivant. Ces semences peuvent se propager, se répandre, se multiplier, grandir. Et donc le maître Ivanov, il a agi comme un vrai fils d'Enoch. Il a protégé ses élèves, son école, sa tradition. Et il l'a chassé. Il a chassé cet élève. C'est vraiment à méditer, hein. La vie est magie. Tout est magie. Tout est empli de magie. C'est un éveil, c'est une discipline, voilà, une protection. On doit se relier avec ce qui protège, seul Dieu protège, Dieu seul protège. Aucun homme n'est grand devant les mondes qui animent les fils de Caïn ou qui animent les fils d'Abel. Aucun homme n'est grand. Dieu seul peut protéger, Dieu seul peut équilibrer, Dieu seul peut, oui, mettre des protections. Donc c'est pour ça, par exemple, le culte de l'ange, le culte de la lumière, voilà, ça amène des esprits qui vont protéger, qui vont mettre des protections, des gardiens tout autour de vous, à vos portes, aux portes de votre être, à vos frontières. Il faut être voilà, pas être dans une discipline excessive, voilà, c'est le bon dosage, mais la discipline pour la lumière est fondamentale parce que ça invoque des protections, des intelligences, des sagesses. Voilà, nous en Occident, on a été en Afrique, c'est différent. Ils savent que les mondes invisibles sont vivants, ils vivent avec eux, ils vivent avec les ancêtres qui ont passé le voile. Ils savent que la magie est. Nous en Occident, on doit. C'est pour ça qu'Olivier a insisté tellement sur la magie, hein, qu'il a amené quelque part le rayon de la magie cérémonielle pour nous éveiller. La vie est vivante, la vie est emplie d'esprit, de génie, d'égrégore, soit ténébreux, fils de Caïn, soit illusoire, fils d'Abel, soit lumineux, pur et divin, fils d'Énoch. Voilà, Olivier, quand vous regardez son œuvre, c'est une œuvre de magie, hein, toutes les cérémonies, toutes les œuvres accomplies même, hein, c'est l'ange de la magie quelque part, qui est un roi dans la nation essénienne. Olivier lui-même, dans ses anciennes vies, il avait beaucoup travaillé la magie, hein. Par exemple, Martinez de Pasquali, c'est une de ses anciennes incarnations. C'était un être de magie, pareil, hein, qui était dans les rituels, les cérémonies. Une autre de ses incarnations, c'était Sitting Bull, comme on dit en français. Le grand chef indien, le sage, le saint homme, hein, c'était un saint homme. Hein, voilà, il était dans son époque, donc il a aussi été guerrier. Mais tout ça, c'était pour prendre soin de son peuple, quelque part. C'était parce que sa tradition était menacée, sa façon de vivre était menacée, qu'il a fait parfois qu'il a pris les armes. Mais à la base, c'était un saint homme, empli de vertus, de qualités, de bonté pour son peuple. C'était un guide pour son peuple. Hein, quand on lit sa biographie, c'est passionnant, hein, parce que on découvre plein de traits d'Olivier, hein, là, qui ont passé d'une incarnation à l'autre. Il était fondamentalement animiste. Vraiment, il était né dans une tradition animiste, il vivait avec les esprits, il savait que tout était empli d'esprits, les minéraux, les pierres, les montagnes, tout était vivant, empli d'intelligence, les végétaux, les animaux avaient une âme, donc voilà, il parlait avec les animaux, avec l'âme des animaux, ils cherchaient des quêtes, ils avaient une quête de vision, voilà, ça faisait partie de leur chemin d'initiation des Sioux. Ils cherchaient des quêtes de communier avec les mondes de la mer, les animaux, les montagnes, les sources, les arbres, les fleurs, voilà. Ils étaient en intime communion. C'était une vie magique, une vie animiste, une vie, voilà. Ils savaient aussi qu'il y avait un grand esprit au-dessus, un esprit supérieur qui avait quatre directions. Voilà, le calumet de la paix, comment amener l'ordre dans la communauté, faire respecter l'ordre, la paix, le bien-vivre, la protection pour le peuple. C'était des sages, hein. Ils vivaient, ils étaient dans un monde de magie. Ils étaient dans un monde de magie. Il était vraiment dédié à son peuple, d'ailleurs, hein, parce qu'on voit quand on lit sa biographie que, il faisait par exemple, toute sa vie, il a pratiqué voilà, pour nous occidentaux, ça paraît un peu violent, mais voilà, il se mettait autour d'un grand feu, il regardait le soleil et il dansait autour du feu en regardant le soleil. Et ils pouvaient s'attacher certaines parties de leur corps pour rester debout et continuer. Mais en fait, c'était comme une offrande quelque part. Voilà, dans leur tradition, c'était une offrande parce qu'ils offraient leur sang, ils le faisaient consciemment, ils offraient leur sang, leur chair, leur corps, pour appeler des esprits, des inspirations, des visions des mondes supérieurs qui les guident, qui leur montrent le chemin. Là, comment on réagit par rapport à ces blancs qui envahissent tout, qui détruisent tout sur leur passage, qui respectent rien, qui tuent tous les bisons, qui les massacrent, et puis voilà, qui détruisent quelque part l'ordre de la nature. Là, ils étaient perdus, hein. Donc ils cherchaient à comprendre, ils ne comprenaient pas forcément ce monde qui débarquait, qui les envahissait. Ils étaient dans une quête d'intelligence, de sagesse, comment réagir, quelle est l'attitude juste. Et donc ils cherchaient. Il a fait plein de sacrifices comme ça, pour son peuple, pour le bien de son peuple, pour guider son peuple. C'était un guide, un vrai guide. Un homme médecine, comme il disait. Voilà, dans la nation essénienne, la magie est fondamentale. Il faut avoir une vision magique de tout. Voilà, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tomber dans un excès. C'est l'équilibre. Le subjectif doit être relié à l'objectif pour nourrir l'intime. L'intérieur doit être relié à l'extérieur pour éveiller l'intime. C'est fondamental d'avoir cette vision magique, de la développer, de la cultiver, d'avoir conscience des mondes invisibles. parce que voilà, sinon on perd l'équilibre. Et donc le sceau de la santé. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'avais prévu de vous lire encore quelques versets d'un psaume, mais je vais être dans le bon dosage et je vais m'arrêter là. Bonne journée à vous.
Merci.